Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Beni, au Nord Kivu. Voici le sommaire de votre journal vespéral. Ituri, 17 personnes otages des ADF ont été libérées hier jeudi des mains de leurs ravisseurs par les FARDC en territoire de Mambasa suite au combat engagé par l'armée contre ces terroristes en fuite. L'Organisation de défense des droits humains, CRDH, plaide pour que les opérations soient intensifiées contre ces rebelles afin de démanteler tous leurs bastions. La province du Kwango, fortement frappée par la malnutrition aiguë et chronique, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont beaucoup plus affectés par cette maladie. Le bulletin d'Ipronanut note que plusieurs zones de santé sont en alerte nutritionnelle. L'invité de ce journal est le conseiller médical du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Dan Bomboko, donne des précisions sur le lancement à Kinshasa d'une campagne de chirurgie ophtalmologique. C'est notamment pour la prise en charge gratuite des patients souffrant de la cataracte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Ituri, 17 personnes otages des ADF ont été libérées hier jeudi des mains de leurs ravisseurs par les FARDC en territoire de Mambasa, dans les environs des villages de Loloa et Lumalisa. Selon les sources de sécurité, cela fait suite au combat engagé par l'armée contre ces terroristes en fuite. L'Organisation de défense des droits humains, Convention pour le respect des droits humains, CRDH, salue les efforts des forces loyalistes et plaide pour que les opérations soient intensifiées contre ces rebelles afin de démanteler tous leurs bastions. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
Parmi ces otages libérés figurent 3 mineurs et 5 femmes. Ces personnes étaient gardées en otage depuis 4 mois pour certaines et 1 mois pour d'autres. Leur prise en otage est intervenue lors des attaques de villages de Otumaber, Loya, Kandoui dans les territoires d'Irumu et de ceux de Lumalisa et Loloa dans les territoires de Mambasa. Ces personnes visiblement très affaiblies ont été ramenées par l'armée à Komanda Centre le jeudi. Elles expriment leur gratitude au FARDC pour les avoir libérées du calvaire enduré en brousse, notamment comme esclaves. L'une d'elles témoigne.
Nous avons été capturés à Loloa et ils nous ont amenés dans la brousse là où nous ne les connaissons pas. Nous avons fait 4 mois et 2 semaines avec eux. Notre travail était de cultiver leurs champs de maïs, haricots et les soja. En tout cas, nous remercions le gouvernement pour nous avoir libérés aux mains de ces rebelles.
Satisfaite, l'ONG Convention pour le respect des droits humains, CRDH Irumu, encourage le FARDC à continuer à pourchasser l'ennemi qui trouble ces derniers jours l'inquiétude de la population sur la RN4. Son coordonnateur, Christophe Mouyadérou.
Nous disons un grand merci à ce grand travail que notre armée a pu exécuter.
De son côté, l'armée réaffirme sa détermination à mettre fin aux aventures des ADF dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la situation demeure instable jusqu'à ce vendredi autour des positions des FARDC, des Rwanguba et des Rangira. C'est entre les groupements de Djomba, Bweza et Busanza en territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans la région, des tirs sont attendus depuis tôt ce matin. Elle précise que les rebelles du M23 poursuivraient un largage d'obus contre ces positions de l'armée depuis les collines de Mukarange et Shema, un groupement de Bweza. Dans un communiqué publié hier jeudi, le commandant de Sokola 2 parlait déjà des villages de Rutshuru et Ruseke qui se vidaient de leurs habitants sous pression de rebelles, en prélude à ces nouvelles attaques que l'armée considère comme une violation de la trêve édictée par le chef d'État de l'EAC. Nord Kivu, encore une vingtaine de journalistes et éditeurs de presse viennent d'être outillés sur les techniques de collecte, traitement et diffusion de l'information en zone de conflit. Ceci à l'issue d'un atelier de 2 jours organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les participants sont venus de Goma, Rutshuru, Masisi et Walikale. Selon le président du collectif des éditeurs de presse au Nord Kivu, co-organisateur de l'atelier dans le contexte de la province qui est affectée par l'instabilité sécuritaire actuellement, ces outils constituent un outil pour orienter les journalistes dans leur rôle au quotidien. On écoute Papi Okito.
À travers l'art, les artistes ont la possibilité de transmettre le message des cohabitations pacifiques. Les artistes ont la capacité d'unir de personnes qui étaient déjà à conflit. Et que donc, nous avons estimé qu'il est très primordial et très important que ces artistes puissent être capacités dans la manière de composer leurs chansons ou alors pour les cinéastes de faire du scénario. Pour nous, la société congolaise est une société société qui a besoin de l'émergence, qui a besoin du développement. Et tout ceci ne peut pas être possible si l'art n'intervient pas. Voilà pourquoi les artistes ont promis en tout cas faire de leur mieux pour cette fois-ci, au travers l'art, composer des chansons qui vont unir les communautés, jouer de films qui vont transmettre le message de paix et de cohabitation pacifique.
Un conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka dans le territoire de Kwamout au Maïndombe, la tension ne baisse toujours pas. Ce matin, le village de Massiakwa a été attaqué et le bilan provisoire fait état de 2 morts, dont le chef du village et sa femme, ainsi que de plusieurs maisons incendiées. La dite attaque est attribuée au camp Yaka, selon le député provincial David Bisaka et le député national Guy Moussomo. L'intervention des autorités du pays s'avère obligatoire pour imposer la paix dans cette partie. Plus de précisions avec Irène Boma.
Les peuples Teke et Yaka ne décollèrent toujours pas au territoire de Kwamout. Ce vendredi, le village Massiakwa est en feu depuis 6h du matin. Des sources concordantes parlent de plus de 200 assaillants apparentés aux Yaka qui ont attaqué ce village. Déjà, plus de 80 maisons sont brûlées et un mouvement de déplacement massif des populations est observé dans tous les sens. Certains habitants traversent en pirogue pour trouver refuge dans les territoires voisins de Bolobo, d'autres vont au Congo-Brazza et d'autres encore se dirigent vers Kinshasa. Selon le député national Guy Moussomo, le bilan humain provisoire fait état de 2 morts.
Les assaillants sont entrés à Massiakwa. Ils ont tué et égorgé le chef coutumier et sa femme. Le bilan pourrait être lourd. Nous attendons peut-être la fin de la journée.
Ne sachant à quel sens se vouer, le député provincial David Bisaka, élu de Kwamout, s'exprime en ces mots.
Aujourd'hui, ça fait déjà presque 2 mois que nous crions à travers vos ondes. Mais pourquoi on va supplier pour que notre population soit sécurisée? Ça me met très malade là et ça me prend la tête cette histoire.
Martin Souta, vice-président de la société civile de Kwamout, lance un cri de détresse aux autorités en vue de la restauration de la paix dans ces coins. Irène Boma, Bande Nouville, Radio Okapi.
La province du Kwango est fortement frappée par la malnutrition aiguë et chronique. Plusieurs zones de santé sont en alerte nutritionnelle selon le bulletin du Programme national de nutrition Pronanit au niveau national, rendu disponible par son coordonnateur provincial au Kwango, Baudouin Onésime Bikakala. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont beaucoup plus affectés par cette maladie. La faible production agricole, l'ignorance de la population et le manque d'eau potable sont parmi les causes de cette situation en province. Le vice-président de la société civile de Kwango, qui l'est dit, plaide auprès du gouvernement provincial et central pour une intervention. Encore une fois, Irène Boma.
Au regard des différentes enquêtes menées dans la province du Kwango sur la sécurité alimentaire, il est montré que cette province est touchée par la malnutrition aiguë et chronique, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. En se référant au rapport du 48e bulletin du juin 2022 sur les alertes nutritionnelles, 11 sur les 14 zones de santé que compte le Kwango sont en alerte nutritionnelle. Parmi elles, nous pouvons citer la zone de santé de Popokabaka, Kasongolunda, Kitenda, Tembo, Panzi, Kaemba, Fechi, Kajiji, Kisanji et Wambaluadi. Ces informations nous sont livrées par le coordonnateur provincial du Pronanit du Kwango, Baudouin Bikakala. Symphorien Kwango est le vice-président de la société civile du Kwango. Tout en énumérant quelques causes de cette situation en province, il plaide pour une intervention.
Les causes de l'insécurité alimentaire dans la DPS Kwango sont la mauvaise pratique alimentaire, la qualité de l'eau consommée par la population qui n'est pas potable, l'ignorance. Nous demandons à notre gouvernement de la République de prendre des mesures afin d'atténuer la malnutrition dans les zones de santé concernées.
Il en appelle aussi à l'intervention du PAM, Programme Alimentaire Mondial. Irène Boma, Bande Nouville, Radio Okapi.
La province de la Tchopo, lancement officiel hier jeudi de la mutuelle de santé des enseignants mécanisés. La cérémonie a été présidée par la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namasia. L'objectif de cette mutuelle est notamment de permettre l'accès aux soins de qualité sans contraintes financières aux enseignants et leurs dépendants. Les enseignants se disent honorés par cette victoire syndicale puisque c'est l'une de leurs principales revendications qui vient d'être réalisée. Des détails avec Jacques Moukonkolé.
Tout a commencé par l'inauguration du bâtiment qui abritera le siège de la mutuelle de santé des enseignants de la Tchopo par la vice-ministre de l'EPST. Une occasion pour Amina Tanamasia d'expliquer aux enseignants le bien fondé de cette structure dans leur juridiction.
L'enseignant ne sera plus confronté au déboursement d'une partie de son revenu pour des dépenses de soins de santé, qu'il s'agisse de lui-même ou de membres de sa famille. Il verra de ses faits son revenu financier se stabiliser et être affecté à d'autres besoins essentiels de la vie.
Pour Joseph Litete Bobina, secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, l'effectivité de ce projet est une victoire syndicale.
Un rêve est devenu réalité. Vous savez que les soins de santé nous coûtaient trop cher. L'enseignant, au lieu d'aller s'occuper des enfants, le plus souvent, il doit se démener pour aller trouver de l'argent pour pouvoir assister sa famille. Et je crois que ça va améliorer tant soit peu le vécu des enseignants.
L'heure est à présent à l'identification des bénéficiaires, préalable à tout accès rapide aux soins de santé des affiliés dans les formations médicales ciblées. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année, le ministre des Affaires sociales et les coordonnateurs humanitaires en RDC ont salué le dévouement des acteurs humanitaires qui travaillent souvent dans des conditions difficiles. C'est pour sauver des vies et préserver la dignité des populations dans le pays. Modeste Mutinga, Mutu Ishaï et Bruno Lemarquis ont fait savoir cela dans un communiqué publié ce vendredi à Kinshasa. À 4 mois de la fin de l'année, les besoins humanitaires croissants sont confrontés à une situation financière critique. Le plan de réponse humanitaire a reçu seulement 33% de financement nécessaire. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Les premiers mois de l'année 2022 ont enregistré des multiples crises qui ont provoqué des besoins humanitaires, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où plus de 3 millions de personnes sont des déplacés internes. À chaque crise, les partenaires humanitaires se mobilisent pour apporter du secours. En premier lieu, les organisations locales et les volontaires locaux, les autorités locales, provinciales et nationales, les ONG nationales et internationales et les agences des Nations Unies. Parfois au péril de leur vie, les acteurs humanitaires abattent un travail incommensurable pour apporter de l'aide d'urgence à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants frappés de manière répétée par les conséquences des conflits et de la violence armée, des épidémies et des catastrophes naturelles au pays. C'est aussi l'occasion de saluer les familles congolaises qui, de façon spontanée, font preuve d'humanité en offrant leur toit aux personnes en détresse, constituant la première ligne de réponse humanitaire dans le pays, a déclaré le ministre Modeste Mutinga.
Il faut noter que la situation humanitaire en RDC requiert toute l'attention des partenaires. Cela étant, l'aide humanitaire n'est pas la solution aux problèmes humanitaires. La solution viendra de la résolution des conflits, de la consolidation de la paix et du développement socio-économique à travers la réalisation des objectifs de développement durable, a souligné Bruno Lemarquis. La délégation syndicale nationale de la SNCC fustige la méthode de travail des agents de l'inspection générale des finances à mission à la SNCC. Dans une correspondance adressée à l'inspecteur chef de service à l'IGF, de rappeler à l'ordre ces agents car ils ont bloqué tous les documents de sortie de fonds, ce qui crée un climat malsain au sein de la SNCC. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
Dans cette correspondance, la délégation syndicale nationale dit avoir accueilli avec enthousiasme cette mission dépêchée par l'IGF dans l'espoir de la relance de la production de cette compagnie ferroviaire qui fait face à plusieurs difficultés. C'est entre autres l'impayement de plus ou moins 100 mois d'arriéré de salaire, la non-sortie des pensionnés depuis 2014, la modicité de salaire car étant payé au taux de 750 francs congolais le dollar. Les signataires de cette correspondance indiquent qu'une telle entreprise doit être gérée méticuleusement que d'être soumise aux caprices et à la dictature des agents de l'inspection générale des finances en mission à Lubumbashi. La délégation syndicale à ses agents notamment, le fait de ne se présenter qu'une seule fois la semaine pour mener leur mission. Conséquence, plusieurs documents des paiements en faveur de la production et de l'exploitation ainsi que le social des travailleurs sont bloqués. C'est entre autres le document relatif à l'achat des produits d'entretien et de vivres pour les malades à l'hôpital de la SNCC, les primes ainsi que les collations, sans oublier les fournitures des bureaux et autres pièces de rechange pour réparation des locomotives et autres machines. Pour cela, la délégation syndicale exprime toute sa désapprobation car cela crée un climat malsain au sein de l'entreprise. Voilà pourquoi elle demande à l'inspecteur général de finances pour qu'il donne des recommandations claires aux agents en mission afin que le travail se déroule normalement dans le délai et le respect des textes légaux en vigueur, à savoir le code du travail, la convention collective, ce qui va préserver la paix sociale au sein de l'entreprise. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Les journalistes Ruth Biatini de Mbujimayi, Divin Thierry Mouami de Bukavu et Elda Along de Kinshasa ont rapporté la première édition du prix média Femmes, Paix et Sécurité dans la salle Roméo Golf ici à Kinshasa. C'est suite à un concours du cadre de concertation de la femme congolaise. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Vanessa Kongolo pour plus de détails.
Ruth Biatini, journaliste à la radio Zoé de Mbujimayi, gagne la première place suite à son reportage radio sur le travail de femmes pour la paix au Kasaï oriental.
Un troisième prix que je viens de gagner, surtout celui-ci prône la participation des femmes avec la résolution 1305, je ne peux être que satisfaite. Ce prix représente autant de sacrifices que je voudrais faire valoir pour que la voix de la femme soit entendue.
Divin Siri Mouami, 25 ans, journaliste africain Média RDC.info a remporté la deuxième place média en ligne pour son article « Une femme nommée pour la reddition de groupes armés au Sud Kivu ». Il veut continuer à écrire et contribuer à la paix dans l'Est du pays.
Nous pensons accompagner les femmes, nous pensons rédiger nos articles dans le sens de gestion des conflits, qui est un jour la paix parce que c'est un rêve, c'est une obligation à nous tous.
Elda Along, journaliste à Femmes d'Afrique Magazine, a quant à elle remporté la troisième place presse écrite suite à son article « Entre gouvernements et partis politiques à qui la responsabilité de la répartition inégalitaire hommes-femmes.
C'est un engagement que je prends, celui de continuer à me spécialiser sur la résolution 1325 et ainsi que d'autres instruments juridiques qui parlent toujours des droits des femmes.
Actualité internationale.
Au Tchad, deux chefs rebelles sont rentrés d'exil hier jeudi avant l'ouverture du dialogue national. Ce sont deux grandes figures de la rébellion des 10 dernières années qui sont rentrées en N'Djamena pour participer au dialogue national inclusif qui s'ouvre demain samedi. Il s'agit de Timane Erdimi, 67 ans, et Mahamat Nouri, 75 ans, deux chefs rebelles au parcours politique similaire. L'Algérie a annoncé ce matin avoir maîtrisé les incendies qui ont ravagé des zones boisées et urbaines dans plus de 14 régions du nord-est. Des incendies qui ont fait au moins 38 morts et près de 200 blessés, dont certains grièvement brûlés. Mais les dispositifs anti-incendie restent très critiqués.
L'invité.
L'invité de ce journal est le conseiller médical du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Dr Dan Bomboko donne des précisions sur une campagne de chirurgie ophtalmologique pour la prise en charge gratuite des patients souffrant de la cataracte. Toutes les personnes affectées par cette maladie peuvent déjà se faire enregistrer pour bénéficier de ce dimanche 21 août 2022 des soins gratuits à l'hôpital Moncolé de Kinshasa. Il s'entretient avec Gumaté.
Bonjour Dr Dan Bomboko.
Bonjour.
Qu'est-ce qui motive cette initiative? Avez-vous constaté que la cataracte est devenue un problème de santé public pour que vous puissiez initier cette campagne?
Oui, tout à fait. La cataracte a toujours été un problème de santé publique majeur dans ces pays. Nous avons fait face à plusieurs difficultés au niveau du système de santé et nous avons dû faire face à plusieurs épidémies. Il n'en demeure pas moins vrai que des maladies comme la cataracte sont toujours là et nous devons nous y pencher pour aussi apporter des solutions et un soulagement aux personnes qui manifestent ces maladies.
Et c'est toutes les provinces de la RDC qui sont concernées par cette opération ou c'est seulement la ville de Kinshasa?
Non, bon, il s'agit d'un projet pilote. Donc, nous allons d'abord commencer par la ville province de Kinshasa. Ensuite, nous allons étendre cette activité à d'autres provinces.
Les personnes affectées par la cataracte, comment devront-elles procéder pour bénéficier effectivement de cette prise en charge gratuite?
Alors, nous invitons toutes les personnes qui souffrent de la cataracte de pouvoir se rendre dès à présent au centre hospitalier Collé pour se faire enregistrer. C'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment. Ça va se prolonger jusqu'au 21 août. Toutes les personnes qui ont la cataracte et qui voudraient bénéficier de cette prise en charge devront se faire enregistrer au préalable parce que tous les cas ne seront pas opérés. Ça dépendra un peu du niveau d'évolution de la maladie et puis de la comorbidité de chaque patient. Donc il y a une équipe médicale sur place à Moncolé qui attend les patients qui viennent pour se faire évaluer et éventuellement se faire enregistrer pour les opérations proprement dites.
Ils peuvent y aller dès aujourd'hui?
Oui, dès aujourd'hui jusqu'au 21 août, les recrutements se fera et continue de se faire.
Dans ces pays, nous avons une panoplie de maladies qui constituent un véritable problème de santé publique, comme par exemple les glaucomes, appelés communément l'attention de l'œil. et cette maladie évolue jusqu'à la cécité. Et aujourd'hui, on enregistre un nombre important de personnes qui ont attrapé la cécité à cause de cette maladie. Or, on sait que le coût du traitement du glaucome n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et vous n'envisagez pas ce genre de campagne pour ce type de maladie, docteur?
Bon, il faut dire que à l'heure actuelle, nous avons aussi des gens, des experts avec travaillant, notamment des experts espagnols qui vont nous, des médecins espagnols qui vont nous accompagner dans cette activité. Donc, nous avons profité de l'opportunité qui nous était offerte pour cibler les cataractes. Mais évidemment, les ministères de la Santé travaillent et continuent de travailler pour apporter des solutions à tous les problèmes de santé publique qui existent dans ces pays.
Un dernier message, rappelant aux patients qui souffrent de la cataracte la procédure à suivre pour bénéficier des soins gratuits à partir de ce dimanche 21 août.
Alors, je rappelle, je demande à toutes les personnes qui souffrent de la cataracte d'aller au centre hospitalier Moncolé qui se trouve à Mongafula pour enregistrer. Là-bas, il y a une équipe de médecins qui est sur place à Moncolé 2. Qui est un département d'ophtalmologie du centre hospitalier Moncolé, où ils vont être pris en charge, ils seront évalués, et si l'évaluation est concluante, ils vont se faire enregistrer en vue de l'opération. Et on rappelle, les patients sont totalement gratuits, c'est dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Santé et la fondation Hélène Barraquet, ainsi que la fondation Bahati, qui nous viennent en aide et aussi grâce à l'implication du gouvernement.
Docteur Dan Bomboko, merci.
C'était l'invité de ce journal, le conseiller médical du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Docteur Dan Bomboko, s'entretenait avec Guy Maté. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.